Mon thème ce matin, soin pour la langue. Car avec la langue, on peut préparer le meilleur et puis le pire. On peut cuisiner des bonnes choses et on peut, permettez-moi l'expression, avoir un vomi de venin. L'apôtre Pierre, nous trouvons un épisode juste au moment où Jésus est arrêté. Il est dans la cour de Caïphe, Jésus est arrêté et interrogé la nuit de sa crucifixion, avant la crucifixion, et Pierre est autour de ce brasier. Il s'est introduit tant bien que mal dans cette petite cour. Il voulait quand même suivre son Seigneur. Il avait vécu tant de choses avec lui pendant pratiquement 3 ans. Mais Pierre, nous le connaissons bien au travers des Écritures, il est un homme qui est à prendre à l'emporte-pièce. Il est tantôt haut, tantôt en bas. Il compte surtout beaucoup sur lui-même, sur son audace, sa force, sa sagesse, sa connaissance. Et là, il compte sur lui. De plus en plus, il est comme dans un étau. Et à un moment donné, eh bien, on le dévoile et dit, toi aussi, tu es ces disciples-là. Tu es un disciple de Jésus. Il dit, non, je ne suis pas. Et ensuite, la pression augmente, on le reconnaît de nouveau, et il va dire, non, je ne suis pas. Et pour finir, il va carrément dire avec des anathèmes, c'est-à-dire que Dieu me punisse de telle ou telle manière si je suis un disciple de Jésus, je ne suis pas un disciple. Le coq va chanter, Pierre n'aura plus que ses larmes pour finalement se repentir et changer et regretter tellement ce qu'il vient de faire. Avant la dernière phrase de reniement, la servante qui l'a reconnue ou la personne qui l'a reconnue va dire cette parole, « Ton langage te fait reconnaître. Ton langage t'a trahi. Ton accent galiléen t'a trahi. » Mais pas seulement son accent galiléen l'a trahi, mais le fait qu'il avait été pendant 3 ans avec Jésus, Jésus a tellement déteint sur ses disciples dans sa manière d'être, de parler, que sa façon de parler ressemblait véritablement à un disciple de Jésus et on l'a reconnu pour ce qu'il était et parce qu'il était disciple de Jésus, quelque chose l'a trahi. Vous savez, notre langage nous fait toujours reconnaître tôt ou tard. Que notre accent soit d'ici ou de là ou d'ailleurs, nos accents sont tous très sympathiques. N'ayez aucun complexe par rapport à votre accent et même si vous le gardez toute votre vie, et que votre accent trahit l'origine, votre origine, n'ayez pas de complexe pour cela, mais soyons fiers d'avoir le langage du disciple de Jésus. Et surtout, gardons le langage du disciple de Jésus en toutes circonstances, sans en avoir honte. Dans Actes chapitre 4 et verset 13, Pierre, qui a été reconnu pour avoir été avec Jésus, et que son langage et sa langue l'a trahi. Après Pentecôte, nous ne sommes que environ, on va dire, 2 mois plus tard, lorsque Pierre et Jean vont être traduits, eux aussi, devant le tribunal et le Sanhédrin, lorsque eux vont être aussi mis au pied du mur une fois de plus, nous ne sommes que 2 mois plus tard, lorsqu'ils sont devant le Sanhédrin pour se justifier, eh bien, leur langage, de nouveau, va se faire connaître. Mais ce sera différent. Ce ne sera plus la crainte de Pierre, et que malgré lui, on l'a reconnu. Mais il est dit à leur sujet, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais on les reconnut pour avoir été avec Jésus. On les reconnut pour avoir été avec Jésus. Et la différence s'est passée à Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque Pierre s'est véritablement converti, lorsqu'il a été transformé par le Saint-Esprit, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a été oint du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit a pris le contrôle aussi de sa langue, c'est là que son langage de disciple de Jésus n'a pas été un langage qu'il a trahi, mais dont il n'a plus honte et il s'affiche en tant que disciple de Jésus. Le plus important, c'est que notre langue de chrétien soit cohérente. que nous n'ayons pas un langage à l'église et devant certaines personnes, et un tout autre langage lorsque nous sommes seuls au travail ou en famille. Car d'un côté, comme dira l'apôtre Jacques, dont je vais parler dans quelques instants, notre langue va faire jaillir une bénédiction, et puis à un autre moment va faire jaillir une malédiction, ou une amertume, ou une eau mauvaise. Et l'apôtre Jacques va dire, mais de la source ne peut pas couler soit la bonne eau ou l'eau mauvaise. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. L'œuvre du Saint-Esprit doit toucher notre langue. Pierre s'est converti, a été rempli du Saint-Esprit, et sa langue s'est convertie. Et nous avons besoin, et c'est le message et le thème de ce matin, que notre langue soit soignée, qu'elle puisse se convertir, qu'elle puisse être purifiée, qu'elle puisse être sanctifiée, et qu'elle puisse être sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est dit dans les Proverbes 31-26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, des instructions aimables sont sur sa langue. » Le psaume 45-3 nous dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. » C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Il est encore dit au sujet de Christ, que l'Éternel lui a donné une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu. Et lorsque Jésus parlait, des paroles de grâce se répandaient de lui. Il était recherché pour sa langue, pour sa parole, pour ce qui sortait comme bénédiction, comme puissance de la part de Dieu. Et il était recherché par les foules pour cela justement, et pour les miracles bien sûr. Des paroles de grâce et des paroles de puissance. Il était uni, son témoignage était cohérent entre sa vie publique et sa vie privée. L'influence de la langue est connue par tous. Nous connaissons et nous nous rendons parfois compte du pouvoir de la langue. Qui n'a jamais goûté du fruit amer, d'une parole qui tue, d'une parole qui décourage, d'une parole de mépris, d'une parole de haine, d'une parole de reproche sans amour, de critique dure, de jugement, une parole qui fait du tort. Qui n'a jamais goûté d'une parole qui relève, d'une parole qui encourage, d'une parole qui éclaire dans un jour sombre? Et je bénis Dieu pour l'Église, car l'Église, c'est aussi le Saint-Esprit qui vous rend attentifs les uns aux autres. Donnez suite aux impulsions que vous recevez dans une journée. Je suis moi-même l'objet de la bienveillance de certains frères et sœurs, et je bénis Dieu pour cela. Et j'ai en souvenir une, deux ou trois journées difficile que j'ai eu peut-être d'ici la dernière année. Une journée particulièrement écrasante et difficile où arrivait subitement un SMS de quelqu'un qui ne savait rien et qui, par une parole d'SMS, a donné le tournant à cette journée, a permis un éclairage nouveau, a permis que la joie émerge, m'a permis de reprendre courage. Le Seigneur connaît la puissance qui est sur la langue, la puissance de la parole proclamée, la parole donnée, la parole transmise. Mais il faut que notre langue soit contrôlée par le Saint-Esprit. Et il faut que notre langue soit contrôlée par le Saint-Esprit. C'est indispensable, car elle peut faire tant de dégâts, tant de dégâts. Regardons dans Jacques maintenant, chapitre 3, verset 2 et suivant. Il nous est dit au verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il est dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Ça nous met tous dans le même panier. On est tous à la même enseigne. Car tous nous bronchons un jour ou l'autre au niveau de nos paroles. Nous voilà donc rassurés. Mais on va continuer le texte. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que l'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je répète cette dernière phrase. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Peut-être que le constat de Jacques nous paraît trop carré, trop brut, trop dur à encaisser. Pourtant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et la vérité libère. Dans la mesure où nous reconnaissons que nous accueillons la vérité, que nous l'acceptons, que nous acceptons le verdict parfois dur, eh bien, nous sommes déjà en voie de guérison et de délivrance. Dans la mesure où nous reconnaissons que nous avons besoin d'être touchés et travailler sur ce point-là. N'importe quel médecin le sait. Soumettre son corps au scalpel du chirurgien pour qu'il puisse intervenir et extirper le mal pour que guérison s'ensuive. C'est normal, tout le monde le sait. Et la vérité, parfois, elle est dure et tranchante. Et Jacques est spécialiste dans le domaine. Il est un peu carré comme ça. Et on n'aime pas trop ce genre de paroles. Et pourtant, elles sont salutaires, mes frères et sœurs. Elles sont salutaires. Parfois, notre langue est littéralement enflammée par la gêne. Ne disons pas le contraire. Trois images se dégagent de ce texte. L'image du cheval, dirigé par le cavalier, l'image du navire dirigé par le gouvernail, et l'image d'un feu qui démarre et qu'on n'arrive plus à arrêter. Lorsque le cheval, animal très fort, se laisse diriger par le mort qui est dans sa bouche, eh bien, l'animal tout entier est contrôlé par le cavalier. Notre vie est contrôlée lorsque notre bouche est contrôlée. Notre force est contrôlée lorsque notre bouche est contrôlée. Le navire symbolise le voyage qui doit être contrôlé non pas par le vent seulement, mais par le gouvernail qui trace la route et le chemin pour le bateau, pour qu'il arrive à destination. Le cours de la vie est dirigé, entre autres, dit Jacques, par le gouvernail de la vie, qui est la langue. Par la langue, nous pouvons rater des épisodes de notre vie ou nous pouvons construire des épisodes de notre vie. Nous pouvons passer à côté de la cible ou bien la toucher. Notre langue a un pouvoir insoupçonné. Ne le sous-estimons surtout pas. Ne sous-estimons pas et ne disons pas « Oh, c'est rien, ma langue a glissé, elle a échappé, elle a trébuché, elle a fourché. » Peu importe l'expression que vous prendrez, mais notre langue a des effets non seulement sur les oreilles et le cœur des gens autour de nous, mais dans le monde spirituel surtout. Notre langue a un effet puissant. Et comme un feu qui veut dire que une fois que le vent passe dans le petit feu, eh bien, on n'arrive plus à maîtriser, ça veut dire que la langue a une influence beaucoup plus grande que tu ne penses. La langue, d'après Dieu, d'après la création, est prévue pour être une bénédiction et avec une grande possibilité d'influence. Mais touchée par le manque de contrôle de soi, touchée par le cœur mauvais et les mauvaises habitudes, c'est ça aussi. On a l'habitude de parler certaines choses. Et j'aimerais que ce matin, vous vous laissiez interpeller, je me laisse interpeller par le Saint-Esprit sur les habitudes. Pierre avait des habitudes de parler. Sa langue partait tout seul comme une flèche à tout bout de champ. Et lorsqu'il était au pied du mur, dans un endroit de pression, de solitude et de ténèbres prononcées, eh bien c'est ce qui sortait de son cœur qui s'est exprimé et ça a été le reniement. Des habitudes ont besoin d'être changer. Et l'apôtre Jacques, j'aime quand même sa façon carrée de parler sur la langue, car des fois, il faut être carré pour que ça change. Il faut parfois recevoir une gifle. On n'aime pas ça. Le feu qui s'allume, enflammé par la gêne, le monde de l'iniquité, souillant tout le corps, le venin mortel, que ce sont des mots violents. Et on ne peut pas dire, non, c'est pas comme ça, c'est beaucoup moins chez moi, c'est pas mon problème. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous avons tous à faire avec cela. Il n'y a pas une personne qui est exempte dans cette salle par rapport à ce problème de la langue qui a besoin d'être purifiée, qui a besoin d'être sanctifiée et qui a besoin d'être contrôlée. C'est un constat implacable dont il faut prendre connaissance ce matin. Et je pense qu'il y a aussi des cœurs qui ont besoin d'être guéris, d'avoir reçu par la langue peut-être des jugements injustes, des paroles qui tuent, des reproches, des critiques, etc. Et vous avez accepté, enfin ce venin est venu en vous et il a produit une infection. Et vous savez, une infection, ça prend une place et puis tout à coup c'est tout le corps qui souffre, tout souffre de l'infection. On est malade tout court, il y a une température qui s'élève, etc. Il faut réagir face à l'infection. Et si nous ne réagissons pas à l'infection de la parole mauvaise, toute notre vie va être imprégnée de cela. Et jour et nuit, on souffre de cela. Frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit, à la hauteur de tous nos problèmes, comme pour Pierre à Pentecôte, s'il a pu changer Pierre, il peut changer chacun de nous. Il peut encore guérir aujourd'hui l'huile du Saint-Esprit au travers de la démarche du pardon, en lâchant prise. Vous savez, tant que vous vous accrochez à la parole qui a été donnée par quelqu'un, tant que vous voulez réagir, vous l'accueillez et vous ne lâchez pas, donc elle est avec vous, donc elle vous touche, elle vous infecte. Mais lorsque vous la lâchez, lorsque vous lâchez la personne, lorsque vous déposez ça entre les mains du Seigneur, je la bénis et tu t'en occupes et je m'en distance maintenant. Alors peut intervenir la guérison et la paix revient dans le cœur. Il y a des démarches à ce niveau-là qui doivent être faites, j'en suis persuadé ce matin. Peut-être que vous sentez déjà des choses qui montent en vous, là, qui se réveillent. Laissez le Saint-Esprit intervenir. Ma langue doit être purifiée, premier point. Ésaïe 6. Ésaïe se trouve dans le chapitre 6, suite à la mort du roi Ozias, il est dans le temple. Et il a besoin d'être avec Dieu. Il prend du temps à part, il prend du temps avec Dieu, il est avec le Seigneur. Et dans ce temps avec le Seigneur, le Saint-Esprit travaille. Et il voit la présence de Dieu qui descend comme une nuée de gloire et il touche les pans du vêtement du Seigneur. Il est comme visité puissamment. Et puis lorsque nous lisons le texte dans Ésaïe 6, il nous est dit que des anges arrivent également. On va juste le lire avec précision. Et les anges arrivent, un séraphin arrive, et dans cette visitation, où même le seuil de la maison frémit, et la gloire de Dieu est là, la première parole qu'Ésaïe va dire, écoutez bien, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Je suis perdu, mes lèvres sont impures. Et il va ajouter, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il réalise la première chose qu'il réalise, c'est que quelque chose ne va pas avec la langue des autres. Non, avec sa langue à lui et la langue des autres. Ah Seigneur, purifie cette langue, arrête cette langue méchante contre moi. Le Seigneur dit, je travaille d'abord ta langue à toi. Je m'occupe des autres langues aussi. Mes lèvres sont impures, les miennes. Ésaïe est pourtant un prophète. Il est pourtant un homme de Dieu qui a l'habitude de prêcher, de dire la parole prophétique et de dire les paroles de puissance de la part de Dieu. Mais il réalise à ce stade-là que quelque chose doit encore être purifié chez lui. Il l'avait déjà réalisé avant. Mais maintenant, c'est un moment d'arrêt dans le temple de Dieu où sa langue à lui doit être purifiée. Et le séraphin, il nous a dit, va aller sur l'autel et prendre une braise et toucher sa langue. Aïe, ça fait mal. Vous n'avez pas eu mal, vous? La braise de l'autel touchera sa bouche et il recevra cette parole. Ceci a touché ta bouche, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Oui, il y avait du péché encore caché, que Ésaïe va tout à coup découvrir dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, On découvre là de belles choses. Mais il ne faut pas avoir peur que des mauvaises choses se découvrent également. Il ne faut pas avoir peur que des choses que l'on n'a pas encore perçues, dont on ne se doutait même pas, viennent à la surface et doivent être traitées. Des choses cachées que Dieu connaît et que Dieu veut travailler. Parce que Dieu nous dit, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux plus de mon onction, voilà le point qu'il faut traiter. Donc Ésaïe va réaliser que c'est sa langue qui doit être travaillée. Et l'autel de Dieu, mes amis, l'autel de Dieu, c'est la croix du calvaire, c'est toujours le même lieu. L'autel de Dieu, c'est la croix de Jésus. L'autel de Dieu, c'est la solution d'où vient le sang purificateur de Christ pour nous aujourd'hui, pour tous nos péchés, aussi celui de la langue. Et la braise, la force, la braise purificatrice, le feu purificateur du Seigneur qui vient de l'autel va venir faire un changement. Pas juste effacer, mais transformer. Est-ce que nous croyons que notre langue, bien sûr, on peut être pardonné, Jésus pardonne, et il faut demander pardon. Mais nous, ce matin, nous disons, Seigneur, transforme-moi et sanctifie-moi. La main de Dieu veut prendre ce matin ce charbon de l'autel, que nous nous approchions de la croix et que nous puissions là, à cet endroit même, où Jésus a pris tous les péchés du monde, de la langue, qui font tant de mal et tant de dégâts, qui ont conduit des peuples dans l'erreur, qui ont conduit des peuples dans la guerre et dans la souffrance, qui ont fait tant de mal. Tout ce mal de la langue a été pris par Jésus. Et aujourd'hui, il a pleine puissance pour porter ton mal qui t'a infecté, pour que tu sois libéré et purifié. Crois-le, mon frère, crois-le simplement, et tout à l'heure, approche-toi, ou déjà maintenant, fais-le. Il nous est dit, dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il faut une communication de paroles de grâce. Oh, que Dieu nous aide à communiquer la grâce. Nous branchons tous, frères et sœurs, soyons aussi de ceux qui font grâce. Vous savez, il y en a des gens qui, des personnes qui reçoivent une parole mauvaise et qui vont la garder et qui vont vous la ressortir des mois après, des semaines après, des années après. Parce qu'eux n'oublient pas la parole que vous avez dite qui n'était pas bonne ou qui ne leur a pas plu ou qui était fausse. Mes amis, est-ce que nous voulons apprendre à nous faire grâce? Est-ce que nous voulons apprendre à déchirer ces vieux dossiers? À nous faire grâce véritablement. Faites-vous grâce réciproquement. C'est une parole que je dis à tous les mariages. Faites-vous grâce réciproquement. Faisons-nous grâce. Mes amis, si nous traitons les autres comme ça, avec une telle rigueur, en allant soulever les vieux dossiers, savez-vous ce que la Bible dit? Dieu va faire pareil avec nous. Tu seras servi par la mesure que tu utilises pour les autres. Une mesure de grâce, tu recevras la grâce. Une mesure de, à ta manière, tu seras servi de cette manière-là aussi. Qu'il ne sorte donc de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Communique une grâce. J'aimerais que ce matin, l'Église, cette communication de grâce puisse se faire, non seulement dans ce culte, mais constamment, constamment. Jacques nous dit encore dans le verset 11, du chapitre 3 toujours, « La source fait-elle jaillir de la même source, de la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère ?» En fait, la bouche, c'est l'ouverture d'une source secrète qui s'appelle le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce dont vous êtes rempli vraiment va sortir de votre bouche tôt ou tard. Ce dont vous êtes constamment habité va sortir. Vous pouvez être dans n'importe quel contexte. Si vous êtes fan de sport, tôt ou tard, vous allez parler de sport. Si vous êtes fan de film, tôt ou tard, vous allez parler de film. Fan de ceci ou de cela, vous allez parler de ce que vous êtes habité au fond de vous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est que l'ouverture de quelque chose qui s'appelle la source du cœur. Et cette source du cœur doit être purifiée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Donc, notre bouche doit être d'abord purifiée, comme Ésaïe. Elle doit être ensuite sanctifiée. Nous ne devons pas nous étonner que si nous avons constamment un langage négatif, un langage dur, cela va nous influencer, nous et les autres. Et nous allons devenir ce que nous disons constamment. Je répète, nous allons finalement devenir, parce que la parole est puissante, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit les proverbes. Nous allons devenir de plus en plus, si tu es dur en parole, tu vas te durcir toi-même. Si tu es critique constamment, tu vas finalement être critique sur tout et tout le monde et tu vas avoir une opinion mauvaise de toi-même constamment. Ce que nous disons a une influence sur nous. Et notre langage doit être sanctifié. Ma source doit être sanctifiée. Ça, c'est mon deuxième point. Et le troisième point, c'est ma langue doit être comme ce cheval sur lequel je suis assis et je mets le mort dans ma propre bouche et je contrôle. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, autant Pierre ne contrôlait pas beaucoup sa langue, mais après Pentecôte, c'était différent. Autant Jésus est incroyablement maître de lui-même tout le temps. Quelle image d'un homme extraordinaire, le Fils de Dieu. Bien sûr, il est Fils de Dieu, mais sa langue est en parfait contrôle. Il sait l'avancer quand il faut et il sait la retenir quand il faut. Même sous les pressions les plus importantes, il sait se taire et il se contrôle parfaitement. Tourner sa langue cette fois dans la bouche, ce n'est pas un vain dicton. Avant de parler, c'est tout un art et une inspiration nécessaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour que notre inspiration vienne vraiment de lui. Et même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons encore nous tromper. Nous pouvons nous tromper et nous nous trompons aussi. Alors si quelqu'un a relâché sa bride aujourd'hui et que tu as perdu le contrôle de ta langue et que finalement tu as perdu le contrôle de beaucoup de choses, il y a le fruit de l'Esprit. Qui est le contrôle de soi. Nous voulons venir au Seigneur pour dire, Seigneur, je me place sous ton contrôle, je me soumets à toi et je veux contrôler ma vie et ma langue. Et tu m'en donnes la possibilité. Ne dites jamais, c'est plus fort que moi. Le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi, y compris de la langue, membre le plus difficile à contrôler. Nous pouvons le contrôler. Nous n'avons pas d'excuses. Le Saint-Esprit est à la hauteur de tous nos besoins. Jésus va dire, ce qui sort de la bouche vient du cœur, je l'ai dit, c'est la source. La source doit être purifiée. Et si quelqu'un a l'impression ce matin que la source, elle est vraiment polluée, il faut venir au Seigneur pour qu'il vienne jeter la purification dans ta source. Comme Élie autrefois a jeté du sel dans la source et la source a été purifiée. Quelque chose doit être purifié à la source pour que la langue puisse suivre. Alors, je vais terminer. Notre langage nous influence, nous. Et j'ai l'impression que pas mal de chrétiens font des déclarations qui sont certes justes dans la réalité, en disant il y a ça, ça et ça, ou il y a ça, ça et ça qui ne va pas. Ce sont des réalités justes, d'après nos yeux, à nous. Mais la vérité de la parole de Dieu n'est pas ajoutée à ces réalités terrestres. Et c'est là le problème. Nous devons déclarer les vérités de la parole de Dieu et les placer au-dessus des réalités que nous constatons et que nous déclarons. Si nous ne déclarons que les réalités terrestres, nous n'aurons aucune force pour le changement. Au contraire, les paroles dures vont peser sur les uns et les autres et sur nous-mêmes. Mais si nous déclarons les choses comme Dieu les voit, dans la foi, ça s'appelle la parole de foi, la parole de proclamation, si tu crois dans ton cœur et si tu déclares de ta bouche, là tu verras un changement. Là tu verras un changement. Plaçons les paroles de vérité du monde invisible par la foi au-dessus des réalités écrasantes de la terre. Des constats que nous faisons, certes justes à nos yeux, je répète, mais nous devons ajouter la parole de foi qui va opérer la puissance. Car la parole de Dieu, dans ma bouche, avec foi, sera chargé de la puissance de Dieu et va opérer un miracle. Alléluia. Je répète cela. La parole de Dieu, reçue avec foi, proclamée avec foi par ma bouche, sera appuyée par la puissance de Dieu et va opérer quelque chose. Donc ne faisons pas que des constats humains. Ne faisons pas que des constats humains. Le chrétien, il a le regard de foi et le langage de la foi. Parce que notre source remplie du Saint-Esprit et remplie de la parole ne fait pas que jaillir quelques petits constats, certes justes, qu'on peut lister, que l'on peut analyser et comprendre. Ajoutons et plaçons au-dessus de ces choses la vérité. La réalité, ce n'est pas la même chose que la vérité. La réalité, ce n'est pas la même chose que la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, c'est des constats humains, et ils sont limités, ils sont arrêtés. Mais la vérité de Dieu, la parole de Dieu, elle est prophétique, elle voit plus loin, elle voit la puissance de Dieu, elle voit les possibilités de Dieu, elle voit l'infini, elle voit l'invisible. C'est ça que nous devons être remplis, et c'est ça que je voulais vous transmettre ce matin. Soyons cohérents entre notre langue publique, notre langue privée. Ce matin, soyons comme Ésaïe dans le temple de Dieu. Seigneur, purifie ma langue est impure, et puis la langue du peuple aussi est impure, et j'en souffre. Fais quelque chose, Seigneur, je viens à la croix pour que ta braise me touche ce matin. Seigneur, je sanctifie ma langue parce que ma source doit changer, mon cœur doit changer, sanctifie ma langue. Mes mauvaises habitudes doivent être maintenant traitées définitivement et être brisées pour qu'il y ait un changement de langue. Et Seigneur, là où je n'arrive pas, Seigneur, je proclame que toi tu peux et tu es capable de faire l'impossible. Et puis Seigneur, merci parce que tu me donnes la capacité de contrôler ma langue. Ce matin, cesse d'être négatif sur toi et sur les autres. Ce matin, cesse d'être négatif. Cesse de ne voir que ce qui ne va pas. Change de langage. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à dire quelque chose de bien, à être différent. Demain aussi, cette semaine, tu vas m'aider, Seigneur. Et si je bronche encore, Seigneur, je reviens à toi tout de suite pour que ça change dans le nom de Jésus.